Mais c'est vrai qu'après, on franchit des caps. Mais je pense que c'est parce qu'on est sur deux courbes de progression, le matériel et le photographe. Et à un moment donné, on plafonne d'un côté et le matériel permet de passer des caps.
Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Libre et Photographe. C'est le premier épisode de la 12e saison. C'est assez dingue d'annoncer ça et je mesure tout le chemin parcouru depuis le tout premier épisode en 2011 jusqu'à celui-ci. 12 ans d'interview en étant le tout premier podcast d'interview créé sur la photographie et particulièrement sur la photographie animalière. Alors, il y en a plein d'autres aujourd'hui et ça c'est génial parce que ça signifie bien que le format audio plaît de plus en plus et surtout que le thème de la photographie ne s'est jamais aussi bien porté. Pour ceux qui me découvrent et qui ne me connaissent pas, qui écouteraient pour la première fois mon émission, voilà, je suis Régis Moscardini et une fois par semaine, ou un petit peu plus, ça dépend hein, voilà, de l'emploi du temps, eh bien, j'interview un ou une photographe qui fait de son expertise photo un moyen de gagner de l'argent, alors que ce soit dans une optique réellement professionnelle ou dans le cadre d'une reconversion par exemple, ou juste pour, dans un premier temps, se payer son matos, arrondir ses fins de mois. Je lui pose plein de questions pour que vous puissiez prendre de son expérience et vous en inspirer, et j'espère réaliser votre projet à votre tour. C'est le photographe Ken, du pseudo Kenji Scan, qui inaugure cette 12e saison. Ken est militaire de carrière dans la gendarmerie et pratique la photographie depuis ses 20 ans, il en a 40 aujourd'hui, c'est donc un bon paquet d'expériences photo qui vous attendent dans l'interview. J'ai voulu interviewer Ken parce que, voilà, le type de photo qu'il pratique a toujours titillé ma curiosité, je le suis depuis très longtemps sur Instagram. Par son éclectisme déjà, il aborde plein de thématiques différentes, mais aussi par son post-traitement au rendu particulier. Puis surtout, il a entamé depuis quelques temps une démarche plus professionnelle en proposant ses services de vente et de shooting photo. Ça n'est encore que le début pour lui, mais il a osé franchir le pas, et c'est aussi ce qu'on va explorer avec Ken. Pour fêter le lancement de cette 12e saison, là, ce qui serait top, c'est que vous laissiez un commentaire sympa et une bonne note sur l'application Apple Podcast, si évidemment vous utilisez cette plateforme. Je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour Ken.
Bonjour Régis.
Bon, je te remercie d'avoir accepté de te prêter au jeu de l'interview, et notamment tu es le premier de la 12e saison. Alors quand je dis ça, ça me fait vraiment, ça me donne un petit coup de vieux. La nouvelle saison est repartie, c'est de 2021-2022, et tu es le premier de la liste. Donc ça, j'espère que ça ne te met pas la pression, Ken. Hein.
Non, du tout, au contraire, c'est un privilège.
Ok. Ouais, c'est un privilège, et super. Est-ce que Ken, tu veux bien te présenter, s'il te plaît, pour que les auditeurs puissent en savoir un peu plus sur toi?
Bien sûr, alors bon, mais moi je suis Ken, donc 40 ans tout rond d'ailleurs, tiens, je réalise en le disant, 40 ans, donc 4 enfants, et militaire depuis maintenant, mes 25 ans, donc j'ai eu un petit passé quand même avant ma carrière de militaire, mais voilà, maintenant on peut dire que j'ai une carrière bien établie sous l'uniforme.
Ok, donc militaire, il y a trois corps, hein, il y a navire, la marine, l'aviation et le militaire, terrestre, je sais pas si c'est
ouais,
comme ça,
terre.
Mais voilà, l'armée de terre, c'est ça. Toi, tu es dans quel corps?
Eh bien, moi, je suis dans le quatrième, on oublie souvent.
C'est quoi? Ah, la gendarmerie. Ah, voilà, c'est ça. Et oui, gendarme, c'est vrai que du coup, on associe souvent ça aux policiers, finalement, mais vous êtes bien des militaires.
Et oui, on a été rapprochés dans le même ministère, mais non, on reste la quatrième arme.
Dans quelle région tu es, Ken?
PACA. Actuellement, PACA. On bouge beaucoup, hein, tu sais, mais là, actuellement, j'ai posé des valises en PACA. Pour combien de temps, je l'ignore encore. Mais...
Ça fait partie des... Je ne sais pas si c'est une contrainte, mais en tout cas, de la spécificité de ce métier-là, c'est-à-dire que des attraits peut-être aussi, c'est pas forcément qu'une contrainte, ça peut être aussi un attrait de devoir, je ne sais pas, tous les 2, 3, 4 ans, de devoir partir comme ça, déménager.
Mais ça va dépendre, en fait, aussi de tes aspirations à toi. Si tu as envie de rester, tu as la possibilité de prolonger les affectations, mais effectivement, je pense qu'un cycle de 3-4 ans, normalement, la mobilité t'est offerte ouais, tous les 4 ans.
En tant que photographe, ça implique des choses de bouger comme ça régulièrement, parce qu'on sait bien que les photographes ont un peu comme, c'est comme les cueilleurs de champignons, ils ont leur coin, ils ont leur spot, et donc voilà, je veux dire, quand on arrive dans un nouvel endroit, on ne connaît pas, évidemment, toi, tu le vis comment finalement ces changements réguliers pour ta pratique photo?
Eh bien écoute, ça guide un peu ma façon d'être avec pas mal de choses passées, mais j'essaie toujours de voir le bon côté, le verre à moitié plein, on va dire. Donc, et plutôt que de me focaliser sur les coins que je perds en quittant une région, bah, je me dis que je vais en découvrir pas mal. Et pour le coup, bon, c'est facile de dire ça aujourd'hui quand j'arrive en PACA, dans les Alpes de Haute-Provence, donc un coin magnifique. Donc bah, pour le moment, c'est plutôt cet aspect-là qui me saute aux yeux, c'est qu'à chaque fois, je me dis qu'il y a pas mal de choses à découvrir et ça fait partie de l'installation. À côté de l'aspect professionnel, où il y a des nouvelles missions, des nouvelles choses passionnantes, eh ben, j'ai aussi l'aspect perso qui fait qu'en photo, je découvre vraiment des coins magnifiques à chaque fois.
Est-ce que tu peux considérer que tu as développé des compétences en repérage, par exemple, une espèce de savoir-faire très naturel et tu ne te rends pas vraiment compte et ce n'est pas quelque chose qui est normalisé, tu vois, où tu n'as pas un processus que tu vas suivre pas à pas. Mais malgré tout, est-ce que tu peux peut-être dire, un petit conseil comme ça, pas forcément pour les gens qui découvrent un nouvel endroit, hein, on peut être depuis 15 ans à un endroit et puis avoir envie de renouveau, un petit tips, une petite astuce comme ça pour ceux qui veulent un petit peu découvrir de nouvelles choses dans leur coin photo.
Mais après, je pense que ça, oui, effectivement, le fait d'être mobile, bon, ça c'est vraiment quelque chose qui développe chez nous, hein, cette adaptabilité en fait, ce côté. Les militaires, je pense qu'on a vraiment tous ça ancré en nous, vraiment pour le coup. Quand on échange avec la famille, les amis qui ont des carrières civiles, on va dire. Enfin, je fais pas le monde des Moldus, le monde des militaires, voilà. Là. Mais c'est vrai que tu t'aperçois que tu développes un peu ça quand même. Donc, ça transpire aussi dans la photographie. Mais je pense aussi que tous les photographes ont cet aspect-là en eux. Parce que là, je le vois. Du coup, tu te fais plein d'amis photographes à chaque nouvel endroit. Là, je vois ici dans le 04. Je crois que j'ai fait plus d'amis photographes que d'amis en dehors et même au niveau du boulot. Et je crois qu'on a tous ça en nous, les photographes, c'est que partout où on passe, après c'est très modeste, hein, voilà, je ne suis pas photographe professionnel non plus, mais je veux dire, même photographe amateur, on a tous ça, c'est que partout où on se promène, en fait, je crois qu'on a un objectif à la place de l'œil, quoi. On se dit, tiens, effectivement, si on se décale un peu, on va aligner, tu as une composition qui se fait, et effectivement, ça m'arrive, et c'est assez pénible, même pour ma femme ou les enfants, quand on se promène, c'est que je vais faire demi-tour, je vais m'arrêter en voiture, ils en ont marre, quoi. Effectivement, c'est une chose qui t'habite en permanence. Et effectivement, tu te promènes sur la route, tu jettes un peu un œil et là, tu découvres une belle ligne avec au fond un beau relief, parce que c'est vrai qu'ici, nous, on est assez servi en relief. Ouais.
Donc un premier point, effectivement, ce serait de toujours avoir ton œil de... Bon, finalement, c'est pas se forcer, parce que si on est photographe, finalement, c'est comme ça. Mais de toujours avoir cet œil du photographe, encore plus peut-être d'ailleurs quand tu arrives dans un nouvel endroit ou quand tu veux découvrir autre chose. Oui. Tu viens de faire un premier pont entre ton métier de gendarme, hein, de militaire, et la photographie. Et ce pont, c'est ton adaptabilité, voilà. Est-ce que tu ferais un autre pont comme ça entre ton métier donc de militaire et la photographie?
Oui. J'en verrai une parce que je m'en aperçois parfois. Déjà, moi, je suis militaire d'abord avant d'être photographe et c'est vraiment mon métier. J'aime tout le parcours que j'ai eu jusque-là. Et je me suis aperçu effectivement, notamment dans la photographie animalière, que déjà, on a le matériel, nous, quand on est en kaki, quand on se déguise et quand on doit... Parce que je vois ça parce qu'avec les camarades avec lesquels on avait décidé, on a évoqué la possibilité de se mettre un petit peu... Enfin, on a un objectif ici, c'est de choper le loup un jour. Je sais que je me suis fixé pour les 4-5 ans que je suis dans les Alpes de Haute-Provence, c'est d'avoir un jour une photographie du loup. Donc je sais que c'est pas un petit défi.
Bon, juste une parenthèse dans la parenthèse, mais est-ce que les associations naturalistes ont déjà repéré le loup? Est-ce qu'il est déjà, il est en PACA, il est, on sait que dans les Apiliers, on sait que dans le Massif central, là où je suis aussi, il est de passage, il s'installe même d'ailleurs par certains endroits. En PACA, c'est la même chose, c'est à peu près le même profil.
La problématique, je dis problématique parce qu'effectivement, derrière l'aspect photo et passion que moi j'ai pour les animaux, je sais qu'il y a d'autres angles qu'on peut avoir par rapport à cet animal. Donc oui, le loup est très présent dans le 04, dans le 05, dans le 06, il est là, on en est sûr. Après, on le voit pas toujours parce que ça a des modes de vie et c'est un animal qui est très malin, mais oui, si, il y en a.
Donc le kaki, alors si je reviens là-dessus, le kaki, pour le coup, le côté même, c'est du matériel qui te sert, toi. Et tiens, alors kaki matériel, pareil, le côté, je sais pas comment je pourrais dire, alors c'est peut-être pas le bon mot, mais tu sais, sioux, approche, tout ça, se fondre dans le décor, des attitudes de militaire, hein, voilà, te servent également dans l'approche photographique.
Oui, complètement, c'est pour ça que j'allais venir, c'est un peu le corollaire de l'équipement, c'est que t'as aussi des habitudes, moi en plus avant, tu sais, on fait pas, les militaires, on n'a pas toujours des carrières linéaires, en fait, surtout nous, officiers, on va beaucoup changer de spécialité, et avant j'étais dans une unité où l'observation, et puis on pouvait rester des jours entiers à observer une cible. Donc effectivement, ça je le vois, moi ça me pose pas trop de problème de me mettre un peu dans un marécage où il va faire froid, où ça va être humide, et puis attendre que l'animal passe. Donc ça c'est un petit avantage. Bon, il y a des inconvénients aussi, mais Mais voilà, en tout cas, ça, moi, je sais que ça me pose pas trop de problèmes. Et en parlant comme ça avec avec des camarades qui sont pas eux militaires, qui ont pas c'est pas naturel d'aller se mettre dans un buisson et d'attendre 6 heures. Eh ben, j'ai remarqué qu'effectivement, ça va peut-être être pour eux déjà un premier aspect rédhibitoire, alors que moi, je vais déjà avoir le matériel et l'habitude de me déguiser en feuille et d'attendre.
Bon, on te connaît mieux, Ken, top. On va aller encore un peu plus dans ton histoire de photographe. Juste une petite chose. Donc, moi, voilà, quand j'ai un invité, je fais pas un vrai travail de journaliste, hein, loin de là, mais je vais quand même un petit peu fouiller sur le net. Et évidemment, je suis allé sur ton site internet, qui est très joli, depuis ton compte Instagram, qui est tout aussi joli. Tiens, rappelle-nous, dis-nous juste là, en 2 secondes, Ken, ton compte Instagram, s'il te plaît.
Ah, oui, bon, normalement, il est pas dur à trouver. Hein, c'est Ken Giscan.
Ouais.
Donc, tout le monde ne trouve pas l'allusion. Donc,
pourtant, pourtant ça sonne bien quand même. Hein.
Écoute, ouais. Ça m'est venu assez vite parce qu'on se casse toute la tête hein, sur les noms du site, sur les noms, sur les pseudos. Celui-ci, je l'ai changé. Enfin, je l'ai trouvé tout de suite. J'en ai changé un peu parce qu'on m'a dit attention, c'est quand même un guerrier sanguinaire, hein, Genghis Khan.
Ouais.
Je suis revenu dessus parce qu'effectivement, bon, déjà, j'ai pas trop d'inspiration en dehors de ça. Et puis, il est établi. J'ai des autocollants, des choses qui sont.
Moi j'aime bien, moi je trouve ça effectivement comment dire, dynamique, ouais, ça fait référence forcément un petit peu à ça, mais ça fait référence quand même à un personnage de l'histoire qui a marqué l'histoire, alors bon, de cette façon là effectivement, mais malgré tout, ça, puis même au niveau de la sonorité, je trouve que ça
c'était ça d'abord,
ça claque, je trouve. C'est ça claque assez
la sonorité, parce que ça ressemble vraiment à mon prénom et nom de famille, hein, pour le coup.
Ok.
C'est assez ressemblant, et puis
oui, il y a une logique aussi derrière ça, quoi.
Ouais.
Donc voilà, donc je disais simplement que sur ton site, quand je vais sur la partie à propos, tu commences par la phrase, je te cite, hein, il faut bien s'y résoudre à te présenter. Un peu comme si tu n'avais pas trop envie de le faire, tu vois. Est-ce que c'est vraiment le cas d'ailleurs? Est-ce que tu n'aimes pas trop parler de toi?
Ben forcément, après, je crois que je t'avais entendu parler, hein, on a échangé, ou peut-être en dehors de ce contact-là, tu avais abordé un jour le syndrome de l'imposteur. Enfin,
j'en parle souvent, ouais.
Et je pense que c'est forcément lié à ça, parce que ça fait un peu pompeux, je veux dire, de se présenter. Les gens, voilà, à la limite, ils vont bien aimer mes photos. Je suis pas persuadé que tout le monde a envie de connaître un peu ma vie. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, cette page à propos, on m'a fortement incité à la faire, parce que c'est quand même un passage obligé, comme je le mets d'ailleurs, je crois, comme ça dans le.
Ouais.
Mais après, je me suis pas étendu, hein, tu vois, j'ai pas parlé de ma famille, de mon parcours. Je suis pas sûr que ça intéresse tout le monde. Donc, oui, effectivement, j'ai un peu de mal.
D'accord. C'est quoi? C'est un peu de là. Alors, l'idée, c'est pas du tout de faire un truc genre psychologie de comptoir, mais est-ce qu'il y a un côté, tiens, je veux dire, artiste, dans le sens où, en gros, ton moyen d'expression, c'est la photographie, et que, c'est pas l'écriture, c'est pas, je sais pas, la musique ou l'oral, voilà, du théâtre, par exemple, et que finalement, tu te sens bien à t'exprimer par la photographie, et puis dès qu'il s'agit un peu de sortir de ça, t'es un moins à l'aise, quoi. C'est peut-être juste ça, finalement, non?
J'écris un peu, hein. D'ailleurs, j'écris pas mal.
Ah oui.
J'ai même commencé à écrire avant de faire des photos. J'ai quelques livres avec d'autres pseudos.
D'accord.
Qui ont été d'ailleurs édités. Mais... Non, la photo, oui, c'est. Je pense que c'est ça qui est plus. J'ai fait le site pour les photos et pas pour moi. Et j'ai pas de prétention. Voilà. Enfin, je veux dire, j'ai pas pris la maquette à l'envers. J'ai pas mis Kenji et les photos autour. J'ai d'abord mis les photos, et puis effectivement on m'a dit il faut mettre ça parce que les gens ont besoin de mettre quelques éléments, un nom, des choses derrière, donc je l'ai fait, mais en essayant de pas trop le faire. Enfin, j'ai essayé de placer le curseur là où il m'arrangeait un peu, quoi. Il y a une petite
course
rapide, mais je suis pas persuadé. Et puis aussi le fait, voilà, j'ai pas envie non plus d'être trop identifié, et je pense que ça nourrit pas mal aussi ma démarche, c'est de pas être trop identifié par rapport à mon boulot, tu vois, comme j'ai des fonctions, enfin, j'ai des responsabilités, je sais pas comment ça peut être pris, tu sais, il y a toujours des gens qui peuvent ne pas forcément aller jusqu'au bout de l'interprétation et puis s'arrêter un peu là où ça les arrange.
Ok. Oui, effectivement, non, mais c'est intéressant ce point de vue-là. Je reviens, ouais, il y a, je trouve, ce côté qui revient très régulièrement chez les photographes, et moi, je veux dire, je suis aussi passé par là, et j'en vois très souvent, il suffit de voir un petit peu, tu sais, l'avatar sur les comptes Instagram de tous les photographes que je peux suivre et de plein d'autres que je suis pas d'ailleurs, voilà, forcément. Je suis pas tout le monde, loin de là. Mais il est assez rare, je trouve, de voir dans l'avatar, c'est la petite vignette, hein, de la biographie, la photo du photographe. On voit un petit logo, on voit une photo, ben, des choses que les photographes photographient, des animaux, de l'architecture, de ce que je sais pas quoi, mais assez rarement, finalement, tu vois la tête du photographe. Et alors, il peut y avoir des raisons, on va dire, officielles, et que j'entends parfaitement, comme celle que tu viens de dire, à savoir une espèce de pas trop vouloir se montrer par rapport à un autre métier. Il faut, on sait pas trop comment ça peut être pris. Mais il y a aussi, je pense quand même, et tu l'as soulevé, hein, ce syndrome de l'imposteur, c'est pour l'instant, je me cache un peu derrière mes photographies. Mmh. Moi, je suis quand même persuadé que c'est important que les personnes qui vont découvrir tes photographies et celles d'autres personnes puissent savoir quand même qui est derrière. À moins d'avoir une démarche vraiment... À moins que, tu vois, quelque part, ça fasse partie de la démarche artistique. Je pense, par exemple, qu'il y a des artistes, on ne sait pas vraiment qui est derrière. Il y en a un, je ne retrouve plus le nom exactement, qui est très connu, c'est un artiste de rue qui ne fait pas de la photographie. Comment tu dis ?
Il tag les murs.
JR, c'est ça, je crois, et, non il y a un
truc. Ça me parle. Puis,
ouais. Et tu vois, on ne sait pas vraiment qui est derrière. Il y a une espèce de mythe, tu vois, et ça peut être justement une démarche artistique. Bon, dans la photographie, je le vois assez rarement, et c'est plutôt quelque chose, je me cache un peu derrière la photographie pour ne pas trop me montrer. Mais voilà, les gens font bien comme ils veulent. Malgré tout, je suis persuadé que c'est bien de sortir un petit peu du bois, tu vois, de se montrer un peu plus, ne serait-ce que quelques photographies de temps à autre sur le feed Insta, pour que les gens qui te suivent puissent un peu s'identifier et se dire « Ah ben, c'est lui qui est derrière, ah ben, c'est intéressant, d'accord. » Et voilà, peut-être un peu plus connecté, tu vois, avec sa communauté. Voilà, c'est le petit paragraphe comme ça. Alors... Même chose, toujours ton site, je suis pas dessus maintenant, mais je suis allé voir, et quand on va voir un petit peu tes pratiques photos, et je trouve ça super, moi je trouve ça génial, mais enfin c'est très éclectique, hein. Alors ouais. J'ai du portrait, mariage, drone, ciel, intérieur, moteur, sport, et j'ai encore pas tout cité. La diversité, elle est super impressionnante. Comment tu l'expliques, toi, que tu affiches autant, tu vois, de variété de photographie?
Ouais, très simplement par deux choses, c'est que, bon déjà c'est pas une excuse, hein, mais le site je l'ai fait très très vite en fait, très très vite, bon en partie grâce à toi quand même, grande partie grâce à toi, forcément, techniquement je suis parti de zéro, hein. Enfin ceux qui ont envie de faire un site partent parfois avec quelques bases en conception, en web, enfin moi je suis parti de zéro, on peut pas faire plus. Donc je l'ai fait très vite et je sais que j'ai beaucoup buté, notamment parce que mon boulot est très prenant et que c'est quand même ma priorité. J'ai buté sur des choix à faire, des choix stratégiques. Donc j'ai regardé pas mal de sites photographes, certains n'ont que deux, trois
catégories
en fait, et c'est impressionnant. Et grand bien leur peine, hein, mais moi j'ai pas réussi en fait. Je savais pas si je devais mettre. J'ai même voulu mettre des coins, étant donné que je bouge beaucoup, faire des catégories par coin, c'est-à-dire les Alpes de Haute-Provence, la Normandie, la Bretagne, tout ça d'où je viens. Moi je suis plutôt du Nord-Ouest, hein, du bord de mer, et je me suis dit que j'avais des super photos bretonnes. Mais j'ai dit, mais non, en fait, c'est plutôt du paysage. Donc, j'ai pas réussi à faire des choix. Et au-delà de ça, le deuxième point, c'est que déjà, de base, j'arrive pas à me restreindre à vraiment une spécialité. Pourtant, je sais que c'est quand même fortement conseillé, même dans les approches marketing, d'avoir vraiment une spécialité. Plus tu ouvres et moins tu... Et je le vois même dans les abonnements, tu sais, dans les abonnements Instagram. Si j'ai des périodes où je fais beaucoup de photos d'animaux, je sais que j'ai un certain type de clientèle, enfin, de clientèle...
C'est oui,
aussi, mais
de fans, quoi. Ouais.
Et dès que je vais arrêter, que je vais passer à des photos de véhicules ou même des véhicules militaires, je l'ai fait un peu. Là, je perds pas mal d'abonnés. Ces abonnés qui étaient venus pour les chiens, pour les montagnes. Donc, j'ai du mal à me. Mais voilà, au bout d'un moment, je me suis dit, j'ai le choix est simple. Hein, c'est est-ce que tu travailles pour toi, pour te faire plaisir, ou est-ce que tu travailles pour avoir des likes? Et je crois que j'ai fait mon choix au détriment des likes, en fait. Je me suis dit que j'aime beaucoup, je me promène, je vois une superbe moto, elle est alignée avec la lumière, ben, je la prends. Après, pour la ranger, celle-ci, est-ce que je la mets dans paysage parce qu'il y a une belle lumière, une belle montagne, ou est-ce que je la mets dans moteur? Donc voilà comment est née la catégorie moteur. Alors je crois qu'il n'y a pas beaucoup de photos dedans parce que je passe pas ma vie à prendre des moteurs et des véhicules. Je sais que j'avais fait un shooting aussi pendant une mission d'ailleurs. on avait une mission sur le circuit de la Ferté-Gaucher dans le 77.
D'accord.
Et j'ai eu la chance d'assister à un tournage, mais cette fois-ci vidéo d'un célèbre journal, je ne sais plus lequel, qui faisait un reportage vidéo avec une Porsche, une Alpine, et j'avais profité de faire des photos. Donc tu vois, là, il y avait des voitures, mais parce qu'à ce moment-là, ça m'inspirait. Mais j'arrive pas à me fixer. aux 6 catégories qui sont conseillées pour un site internet.
Ouais, c'est ça. Oui, ou 6. Effectivement, on dit souvent ça. Voilà, 6 catégories, 6 thématiques. Mais après, tu mets derrière ce que tu veux. Et c'est vrai que c'est difficile hein, de faire ce choix-là, de ce qu'on va y mettre. Tu l'as dit. Est-ce que c'est par géographie? Est-ce que c'est par thématique photo? Est-ce que c'est peut-être par matériel? Par ce qu'on veut. Il y a aucune règle. Hein. Il n'y a rien qui est mieux qu'autre chose, mais c'est vrai que derrière, après, il faut s'arrêter à faire un choix, ou pas trop. Est-ce que dans tous ces domaines-là, il y a quelque chose, toi, qui t'anime plus que les autres? On a parlé de photographie nature, voilà, et quand même, tu fais du portrait, du mariage. C'est quoi qui t'anime le plus parmi tout ça?
Ben c'est mon site n'est pas vraiment représentatif en la matière puisqu'on voit beaucoup de on voit des catégories qui m'animent pas plus que ça mais qui je pense peuvent aider à faire connaître le travail. Je pense à mariage, tu vois, j'en ai fait qu'un d'ailleurs, c'est ma charmante sœur qui est c'est son mariage, c'est le seul mariage que j'ai fait, mais c'est vrai que je me suis dit que c'était sympa parce que ça traverse aussi un autre thème que j'aime bien, c'est les portraits. J'aime beaucoup les portraits, les photos volées. Je sais pas comment on peut appeler ça, photo-reportage. J'ai vu parfois, typiquement, Douaneau et le baiser. C'est vraiment ce genre de photos que j'ai beaucoup aimé.
D'accord. En fait, oui, quand tu dis pour toi, pardon, portrait, c'est pas un portrait posé où tu vas vraiment guider le mannequin ou le modèle. Non, c'est quelque chose qui est plus du type reportage. Tu mets un endroit, tu regardes ce qui se passe, tu chopes le moment, quoi.
Oui. Et j'aime beaucoup la photo paysage, mais alors c'est quelque chose c'est bouché, je sais pas si y a matière à tirer quelque chose de la photo paysage actuellement, à moins de s'appeler Peter Leek et d'arriver à vendre des photos à plusieurs millions, mais c'est pas mon cas, et c'est pas mon but non plus, ça tombe plutôt bien. Mais je veux dire, tout le monde fait des photos magnifiques, enfin, je vois même des Insta de gars qui ont un Sony Xperia, enfin voilà, ils sortent même pas le boîtier, ils te font ils te font de la magie avec, donc c'est pas très porteur, on va dire. Moi j'aime le faire, donc j'aime beaucoup les paysages et les photos dans l'instant. Je sais pas comment ça s'appelle en fait, photo reportage,
pas mal, ouais, c'est si bien, parce que du coup on voit bien cette image là de la personne qui se met un petit peu en retrait, qui va attendre le bon moment, c'est plutôt ça, je pense, avec une histoire aussi racontée à travers les différentes photos et puis une espèce de logique dans l'enchaînement des photos. Je voulais te savoir si finalement, toi, en tant que... Tiens, par rapport à ta formation photo, tu vois, alors tu t'es formé comment en photographie? Sur le tas, des livres, t'as pris des cours, rien du tout, c'est vraiment que l'expérience. Tu t'es formé comment là-dessus?
Ça a vraiment été sur le tard, pour le coup, parce que j'ai beau faire la photo depuis que j'ai 18 ans, donc c'est-à-dire il y a 6 mois, il y a 20 ans. Et bien, malgré tout, en 20 ans, je crois que c'est sur les 5 dernières années que j'ai vraiment... Enfin, tu sais, j'ai repris les bases techniques, c'est-à-dire qu'avant, c'était un peu au feeling. Bon, forcément, je pense que c'est aussi une bonne façon d'apprendre. Hein. Tu règles, hop, c'est loupé, tu changes un peu le diaphragme. Donc, je l'ai fait comme ça pendant très longtemps, donc une bonne quinzaine d'années. Et c'est vraiment les 5 qui viennent de passer où je suis vraiment... où j'ai regardé des... Voilà, hein, j'ai repris à zéro. Hein, je me suis dit, bon, c'est pas parce que ça fait 15 ans que... Et j'ai regardé des vidéos, il y a même... Même avec des camarades un peu plus érudits, on a repris un peu les choses. Ils m'ont montré des... C'est assez récent, finalement. J'ai été un peu rigoureux. Avant, c'était un peu une manière empirique.
Donc, ça t'a permis de progresser pas mal là-dessus, d'être meilleur dans quoi, finalement? D'être meilleur comment?
Ben de un peu plus construire, j'ai l'impression, les compositions. C'est-à-dire qu'avant, c'était un peu au pifomètre. Et puis, parfois, j'avais pas du tout la bonne lumière. Et là, je m'aperçois que même avant de prendre la photo, j'arrive à peu près à visualiser ce que ça va donner. Et surtout, la partie retouche, que j'ai beaucoup travaillé, en fait. Plus que sur la prise de vue, oui, effectivement, je me suis amélioré, mais c'est linéaire sur les 5 dernières années.
Je vois qu'il y a du drone également. Pardon pour la question peut-être un petit peu brutale et volontairement provocatrice, mais est-ce que c'est un caprice de geek ou il y a une vraie démarche artistique derrière?
Eh ben, c'est parti pour le coup, encore une fois, hein, le boulot est toujours au centre. Je suis télépilote drone militaire. Et donc j'ai commencé par là à voler avant même le perso. Enfin, ça s'est fait de manière conjointe parce que je crois que j'ai acheté mon drone avant la formation pour me dire bon, je vais pas arriver. J'avais peur justement d'être qu'avec des vrais geeks qui allaient piloter avec les yeux fermés. Et donc je l'ai acheté en même temps, mais c'est parti du boulot en fait, télépilote militaire pour nos missions d'observation et pas mal d'autres petites choses. Donc c'est venu comme ça. Et comme à l'époque je me remettais physiquement d'un accident, j'étais un peu moins mobile, donc plutôt que de me déplacer avec l'appareil, en fait, je me suis dit que le drone allait me permettre d'atteindre des points de vue, des angles un peu différents.
Alors j'imagine que tu as aussi, tu ne peux pas tout dire parce qu'il y a c'est assez confidentiel, mais le drone fait partie de la panoplie maintenant des militaires et particulièrement de la gendarmerie pour, alors j'imagine tout de suite la mission de surveillance, mais il n'y a peut-être pas que ça aussi. Est-ce que tu peux nous en parler, allez, deux secondes, parce que ce n'est pas du tout l'objet d'une interview, mais ouais, je suis curieux. Et le drone, peut, du coup, sert à quoi et c'est une vraie petite révolution chez les militaires, le drone?
Complètement, complètement. Après, ça te permet d'avoir un œil partout, en fait, là où, mais pas l'œil de manière péjorative. Je sais qu'il y a beaucoup de. Cet outil-là colporte quand même des images assez négatives, alors que malgré tout, quand on regarde, les missions vont être de quel type? On va avoir des missions de sauvegarde de vie humaine, c'est-à-dire de sauvetage. Hein, c'est-à-dire que maintenant, les unités de montagne, les unités de plaine, enfin, toutes les unités de même des SDIS, hein, les pompiers, ont des drones pour sauver. Hein, c'est pas forcément pour fliquer, on va dire. D'ailleurs, on l'utilise très peu pour ça. Hein.
Ouais,
même dans les missions qu'on a déployées, c'était surtout pour préserver l'intégrité des personnels ou des civils qui étaient en jeu pendant la mission plutôt qu'autre chose. Mais bon.
En gros, là où l'homme peut pas aller et là où un avion classique peut pas aller ou un hélicoptère, le drone peut y aller et donc on voit ce qui se passe, quoi.
Oui, il y a un crash, une recherche de. Enfin, moi, le dernier vol que j'ai fait, c'est une recherche de personne, en fait. Quelqu'un qui avait des antécédents médicaux, qui est parti chez lui, qui n'est pas revenu à temps. Voilà, on déploie cet outil-là. Ça évite d'entamer le potentiel de l'hélico, qui est beaucoup plus onéreux à sortir, qui est plus risqué. Enfin, voilà, il y a vraiment des vrais avantages. C'est complémentaire, hein, ça ne se substitue pas. D'ailleurs, on déploie souvent les deux. Pas en même temps, pas aux mêmes endroits, mais non, c'est vraiment un outil formidable.
Ah, c'est assez fascinant et tu dois avoir des outils spéciaux développés. Je veux dire, est-ce que l'armée va acheter des DJI comme n'importe qui ou il y a vraiment des outils spéciaux développés pour l'armée parce qu'il faut plus de batteries, parce que je sais pas, il faut plus de résistance, parce qu'il faut pas qu'ils se voient, des choses comme ça.
Oui, mais en fait, il y a plusieurs gamme de drones, c'est-à-dire qu'il va y avoir vraiment les drones du quotidien, hein, qui sont vraiment des drones qu'on déploie en cas de voilà, il faut rechercher une personne tout de suite là sur le flanc de la montagne, mais là on n'a pas besoin d'avoir un drone qui va voir de nuit par exemple notamment, parce que je sais qu'on développe aussi des drones, enfin on achète des drones qui ont des outils de vision nocturne, on en a déployé, ou alors qui ont vraiment des longues focales, c'est-à-dire que tu peux voir par exemple une plaque d'immatriculation à 1 km. Donc on a plusieurs utilisations et des achats vont se faire en fonction de ce dont tu as besoin. Donc nous, si c'est vraiment... Après, la furtivité avec les drones, c'est quand même un sujet qui reste assez rapidement clos, parce que bon, ça fait du bruit, un drone. Hein, donc, mais bon, tu
ah,
peux
oui.
le manque de furtivité par des capacités de zoom très conséquentes. On a des fois 200, et là, bon, bah, pour le coup, il est très furtif, hein, s'il est à 1 km de toi.
Ouais, non, c'est fascinant, c'est un monde, enfin, je veux dire, à part non, mais en tout cas, c'est assez fascinant, effectivement. Revenons quand même sur drone photo. Donc, tu utilises tes compétences techniques de savoir-faire pour utiliser toi ton drone personnel. Ça t'a permis d'accéder à des démarches, à quoi comme genre de photographie que tu ne pouvais pas faire avant?
Les photographies de. Enfin, moi, j'aime bien, c'est les photos. Enfin, après, ça, maintenant, il y en a pléthore hein, sur Internet, mais c'est vraiment les photos où tu es vraiment la verticale d'un. Et où il va y avoir des lignes, une composition qui se démarque, alors que vraiment, vu du sol, c'est tout à fait anodin. Enfin, j'avais pris une photo, moi, d'un champ, juste après la neige, donc ça commence, la moitié du champ est un peu enneigé, et toutes les petites bêtes, donc pendant la nuit, ont marché et ont dessiné des traits, donc ça fait très tableau, alors que tu le vois du sol, t'es dans un champ vert, un peu blanc, sur les bords, donc c'est ce genre de composition, en fait, ça révèle des angles et des choses que tu... Mais bon, là, j'enfonce des portes ouvertes, hein, effectivement.
Oui, mais ben, oui et non, en même temps, c'est vrai que, effectivement, c'est une question de point de vue, forcément. Hein, je veux dire, moi qui fais de la macro un petit peu, bah, évidemment, selon que tu te places par rapport à ton sujet, par-dessus, par-dessous, sur le côté, trois quarts, machin, ça n'a absolument rien à voir. Je veux dire, le même sujet va. On aura l'impression que ce n'est pas le même sujet, alors que c'est le même, mais juste un point de vue différent. Donc, évidemment, que le point de vue, il est essentiel et évident. Ceci étant, moi, ce qui me vient comme question, c'est autant, tout à l'heure, on parlait de repérage un petit peu photo, tu vois, en gros, c'est toujours avoir son œil de photographe quand tu te déplaces, hein, voilà, pour te noter, tiens, ça c'est joli, il y a des belles lignes, en gros, un beau paysage avec peut-être potentiellement une belle lumière. Mais ça, tu peux l'anticiper parce que tu es à ton point de vue d'être humain, si tu veux. Un point de vue de drone, tu ne peux pas l'avoir par définition. Comment tu peux anticiper malgré tout le potentiel d'une zone en drone alors que tu n'es pas avec ton drone? Comment tu fais? C'est quoi les moyens?
soit tu enfin je veux dire, c'est toujours pareil, hein, c'est très modeste, mais tu commences à avoir l'œil. Après tu au sol, tu vois qu'il y a des lignes qui se démarquent un peu, tu vois où tombe un petit peu la végétation, et tu dis bah tiens, peut-être que si tu montes un peu là, ça va aligner la végétation, le talweg, le versant de la montagne. Et effectivement, ça m'est arrivé, je pense à une que j'ai faite dans l'éclus de Barne. L'éclus, c'est vraiment un endroit où se resserre le relief, et où le cours d'eau qui creuse dedans, et ça fait vraiment des... C'est très minéral, c'est très fort. Souvent, ça fait des lignes très, très acérées. Et donc, ces clus-là, je les avais vus et je les avais traversés à pied pas mal de fois. Et je m'étais toujours dit, le drone ici pourrait donner quelque chose en prenant de la hauteur. Et effectivement, quand c'est monté, on a vraiment une ligne d'eau qui coupe deux montagnes. Enfin, c'est la même en réalité, mais elle a été creusée au milieu. Ça, tu le développes un peu. Et puis, y a aussi des fois, c'est la surprise. Tu voles. Moi, j'aime beaucoup voler mon drone. Donc je le fais voler en me disant, tiens, je vais peut-être trouver quelque chose. Et puis, bim, surprise, au détour d'une roche ou de quelque chose, tu trouves un point de vue que tu n'avais pas du tout imaginé. Ou...
Un petit point matériel, avant d'aller un peu sur la partie peut-être plus business, entrepreneuriale de ta pratique photo. Alors, on a parlé du drone, mais en termes de photographie plus classique, tu as quoi comme type de matériel, Ken ?
Alors moi, je suis chez Canon depuis ces fameux 18 ans où j'ai commencé la photo. C'était des argentiques au début. Ça fait dinosaure de dire ça, c'est vrai.
Mais ceci étant, moi aussi, j'ai commencé avec l'argentique, hein, j'ai 43 ans, mais moi, c'était l'argentique. J'ai jamais eu de réflexe argentique, mais moi, j'ai eu effectivement les petits... comment ça s'appelle les jetables déjà, hein. Je crois que le mot jetable en photographie, si on parle ça à des gamins de 20 ans, maintenant 25 ans, ils vont se dire, mais quoi, un photographe, un appareil photo jetable, mais c'est quoi ce délire? Ben oui, on avait des photographes, des appareils photo jetables. On l'achetait, littéralement, on achetait l'appareil photo. On prenait, 36 photos, hein, et puis derrière, on le faisait développer, et l'appareil photo, on le jetait, quoi, clairement. Quand on y pense, c'est assez dingue. Donc l'argentique, finalement, quand on a 40 ans, on est forcément passé par là. Donc, tu as commencé avec un réflexe argentique, finalement, alors, Ken. Un
réflexe argentique de chez Canon. Alors, je ne sais plus d'où il est venu, cet argent. Je l'ai encore, c'est génial. Et mais tout doucement, après, je suis passé à des gammes amateurs. J'ai dû avoir le 400D ou le 350D. Et puis là, c'est vrai que ces derniers temps, je suis un peu monté. Alors, c'est vrai qu'il y a toujours ce postulat où on dit que le matériel ne fait pas le photographe. Mmh. Il est réellement vrai, hein, ce postulat. Mais c'est vrai qu'après, on franchit des caps. Mais je pense que c'est parce qu'on est sur deux courbes de progression, le matériel et le photographe. Et à un moment donné, on plafonne d'un côté et le matériel permet de passer des caps. Moi, je l'ai vraiment senti avec notamment, enfin, je dis ça parce que je prépare la fin de ma phrase, c'est que j'ai quand même du bon matériel maintenant. J'ai quand même le Canon R5 et le Canon R6. J'ai deux boîtiers. Donc, je me suis
quand même fait plaisir. Tiens, pourquoi deux boîtiers? Quelle est la raison, l'explication derrière ça?
J'ai deux versions, l'officielle ou...
Ou c'est... Alors, si tu peux dire les deux, dis les deux. Hein.
La vraie. Donc, la vraie, c'est qu'en fait, il y a eu une commande qui ne devait pas se faire et qui a été annulée, mais finalement que j'ai reçue. Donc, je me suis retrouvé dans l'embarras parce que j'ai reçu... Donc, financièrement, je n'avais pas prévu ça. Donc, il a fallu que je m'adapte. Mais bon, après, sur le coup, comme ce n'était plus possible de le renvoyer, je me suis dit que souvent, on voit les photographes avec deux boîtiers, et c'est vrai que quand tu as deux focales différentes, vraiment, ça change la donne. Après, c'est du confort, hein, sincèrement.
Oui. Le confort, c'est juste que tu n'as pas à changer d'objectif. Voilà. Si y a une opportunité, là, dans l'instant, en gros, tu es prêt, quoi, c'est ça.
Complètement, c'est ça. J'ai vraiment, en général, une focale fixe à 50 dessus, puis sur l'autre, j'ai 70-200 ou plus. Et donc, ouais, ça...
En termes d'objectif, tu as quoi comme range, comme...
J'en ai rarement changé, mais je crois que j'ai toujours mon 50-1.4, 70-200, 2.8, mon 24-70, 2.8. Et là, justement, comme je suis arrivé dans des belles montagnes et que je voulais mettre un peu le tri pour aller me cacher dans les buissons, j'ai acheté un 150-600 Sigma.
Je vais te dire, tiens, il manque le gros, le gros caillou, quoi, hein. Et 150-600 Sigma, donc ça fait quand même déjà une belle focale. Et j'allais dire, pour le loup, effectivement, il vaut mieux avoir quand même un gros objectif derrière, quoi.
Ouais. Puis j'ai essayé le doubleur dessus et c'est vraiment très propre, hein. J'étais surpris d'avoir un 1200, hein, qui est exploitable. Mais bon, c'est là où mon discours va un peu frôler, aller à l'encontre de ce postulat dont on parlait tout à l'heure. C'est quand même le matériel. Là, si j'avais pas un R5 et puis cette bonne qualité, le doubleur Canon, le Sigma fait aussi un très beau piqué, je pense que ce serait difficilement exploitable. Mais là, j'ai regardé, effectivement. Et le R5, tu peux vraiment cropper dedans. C'est vraiment l'avantage qu'il y a par rapport au R6, parce que c'est vraiment des jumeaux, sauf qu'il y en a un qui te lâche quand même du 50 mégas par photo et l'autre... L'autre, c'est un 20 mégapixels, je crois. Il est vraiment en deçà et ça se ressent. Tu peux moins cropper. Tu peux moins zoomer. Là, vraiment, des fois pour
donc
la.
Donc, en gros, typiquement, pour aller vraiment très très loin dans la proximité, justement, non physique, mais en tout cas optique et numérique, c'est tu mets ton 156-100, tu peux mettre un doubleur et derrière, si tu es avec ton R5, c'est ça, et bien, tu peux cropper dedans et ce qui. Ouais, effectivement, tu as quand même une belle marge de.
Les avions de ligne, j'arrive à vraiment, quand je les prends en photo, tu sais, vraiment très haut, donc tu devines un avion en l'air, donc tu vois absolument pas le modèle ni rien, et quand tu arrives à zoomer avec un 1200 et fort zoomer après dans la photo du R5, j'arrive à voir la compagnie, le nombre de fenêtres, c'est impressionnant. Et là, je suis pas bon, c'est le matériel qui fait tout.
Bien sûr. Ouais. C'est bon, il y a une autre façon de savoir quel est l'avion et où est-ce qu'il va, c'est d'avoir une petite application que moi j'adore, ça s'appelle Flight quelque chose. Tu vois, en même temps que je te le dis, je regarde sur mon téléphone, c'est Flight Radar 24. Je sais pas si tu la connais. Ah, oui, moi, j'adore. On est dans une zone où il passe quelques avions, tu vois, sur une ligne, quoi, en gros, et, mais ils sont hauts, donc ils ont une ligne très haut qu'on n'entend pas, on voit juste le filet, quoi. Mais quand j'en vois un, j'aime bien regarder. Et des fois, il va à Rome, des fois, il revient, il va à Paris, il vient d'Égypte, enfin, tu vois.
Ça fait rêver, oui.
Ah mais exactement, moi je trouve ça, j'y connais rien en avion, hein, c'est pas du tout mon truc, mon délire et tout, mais de savoir qu'il est là, qui va là, quelque part on part un peu en vacances, quoi. Je trouve que c'est assez fascinant. Il y a un point important pour moi, je voulais aller là-dessus, c'est ton post-traitement. Alors moi ce que j'ai noté en fait, Ken, quand j'ai sur ton feed Insta, ton site, c'est des photos qui sont... assez saturé, enfin même très saturé, contrasté, c'est pas plat, c'est pas pastel, quoi, tu vois. C'est chaud, il y a quelque chose de, alors le mot, faut pas le mal prendre, moi c'est quelque chose presque un peu sirupeux, tu vois, un peu lourd, tu vois, un peu qui se pose là, tu vois, et qui prend de la place, qui est volumineux, enfin je sais pas comment, j'essaie de trouver des mots vocabulaire pour un petit peu dépeindre ce que j'ai ressenti. Moi j'aime bien. Première question, ce rendu là qui est quand même qui est pas rare quelque part, ce qu'on en voit aussi ailleurs, mais quand même qui est pas forcément courant. Ça t'est venu naturellement ce rendu-là, parce qu'on le voit partout, sur toutes tes photographies. Hein. Ça t'est venu naturellement.
Et déjà, tu vois, je manque d'objectivité parce que je vois pas j'ai pas le même regard que toi sur le parce que okay. Quand tu vas dire à la fin, je le vois partout. Je pensais vraiment qu'il y avait pas forcément de cohérence entre tout.
Ah, j'ai pas dit partout. J'ai dit qu'on le voit, partout sur ton compte, hein. Oui, sur ton compte, oui, bien sûr.
Moi, je trouve que j'en vois beaucoup comme ça partout et j'essaie de me démarquer parce que je me dis en fait ce que je fais, tout le monde le fait. Alors ça a plein de noms, hein, Dark Moody, ça a plein de.
Oui, c'est ça. Ouais.
C'est très moody, c'est très dark. Je vois ça tout le temps sur les. Mais c'est peut-être parce que mon œil est attiré par ça. Donc au final, j'ai arrêté de lutter. Mais je te dis, il y a un moment vraiment.
J'ai arrêté de lutter. Attends, juste, faut qu'on s'arrête un petit peu là-dessus. Parce que c'est intéressant comme phrase. T'as arrêté de lutter comme si fallait pas que t'ailles là-dessus, quoi, finalement. C'est ça, non ?
Parce que t'es agité entre deux pôles, c'est te dire je veux me développer. Alors, c'est une démarche assez narcissique, mais t'as envie de montrer ce que tu fais et puis t'as aussi envie de prendre plaisir. Et parfois, il y a une des voies, notamment celle de te développer, eh ben, elle t'oblige à passer par. Tu dis voilà, il faut faire du mariage, je veux en faire. Parce qu'il faut bien manger. Ouais. Je sais qu'un photographe me disait ça. Il détestait le mariage, mais il en faisait parce qu'il faut bien manger. Et c'est pareil, si tu veux gagner du like sur Insta, il faut... Alors moi, j'ai pas beaucoup de modèles en bikini en bord de mer, parce que je sais que ça apporte beaucoup de likes. Mais je vais finir par en louer, parce qu'effectivement, moi, je vois des photos que des fois, je les trouve... Après, je suis pas objectif non plus, c'est d'ailleurs même un peu égocentrique, mais des fois, je suis vraiment content d'une de mes photos, et je m'aperçois, voilà, elle peine à peine à passer les 150 likes. J'arrive à voir des photos voilà, en bikini qui sont très moyennes techniquement. Après, le modèle est très charmant, le lieu est magnifique, mais l'angle n'est pas top, le traitement n'est pas terrible et on est à 12 000 likes. Et je me dis, mince.
Ouais, mais ça vient. Je pense que quelque part, ça vient d'une espèce d'éducation. Qu'est-ce qui va les liker c'est pas péjoratif, mais on peut aussi considérer que les gens qui suivent ce type de compte avec des photos comme celle-ci ne sont pas photographes. Tu vois, ils ont pas d'éducation comme nous on peut avoir d'éducation ou voilà donc je pense que c'est bien quelque part parce que ça veut dire aussi que ceux qui vont réellement liker tes photographies, ce sont des personnes éduquées et donc qui peuvent potentiellement être des clients ou des contacts ou des partenaires. Donc voilà, c'est ce qu'on dit souvent. Hein, je veux dire, c'est en termes de like et de communauté, il vaut mieux la qualité à la quantité. Clairement, vaut mieux une petite communauté. Il y a un concept qui était développé par un marketeur américain, j'ai plus le nom en tête. C'est le concept des 1000 likes. Et d'après lui, alors il a fait des études, il a aussi pu l'expérimenter. Mais si, à partir du moment où tu as 1000 fans, à partir du moment où tu as 1000 fans, mais hyper, hyper qualifiés, tu peux commencer à monter un business intéressant, alors en photographie, mais aussi ailleurs, hein. Je veux dire, c'est pas que la photographie. Hein. Voilà, donc effectivement, mais tu le sais aussi, hein, c'est pas la quantité qui prime, c'est la qualité de la communauté, et voilà. Et donc, ouais, par rapport à ton post-traitement, donc voilà, tu aimes finalement cet environnement.
Ouais,
alors, Dark Moody, oui, c'est peut-être pas mal ça finalement, effectivement.
Parfois, quand je me dis des gens comme Mixplore, enfin, je sais pas si ça te parle.
Oui, Mixplore, ouais, je vois, ouais. Ouais, ouais.
Explographie, je sais plus comment ça s'appelle. Alexis Pifou, qui lui est au Canada, dans des coins magnifiques, et qui arrive à te. Sur une photo d'un lac qui est belle, qui est Instagrammable, hein, mais lui, il t'en fait un truc. Et c'est vrai que ça a été un peu ça qui m'a amené vers ça, en me disant, mais c'est ça que je veux faire. Et j'ai mis un gros accent quand même sur la post-production, parce que je vais peut-être dire un truc énorme, hein, je sais que c'est pas bien de le dire, mais j'ai l'impression qu'on peut. Il est plus facile d'être un très bon post-traiteur qu'un bon photographe, en fait. Et tu peux prendre n'importe quelle photo, même moyenne, et je l'ai déjà essayé avec des photos où j'ai pas soigné vraiment la compo, je dis je, mais je l'ai vu avec d'autres photos aussi, hein. Et t'arriveras plus facilement à faire un truc si tu maîtrises bien la souris que l'appareil.
Moi, ce qui veut dire quand même, je te rejoins assez là-dessus, finalement, je t'ai pas trop jamais dit ça comme ça, mais finalement, il y a une bonne part de vrai. Ce qui veut quand même dire aussi, c'est que si tu es très bon photographe, et en plus très bon post-traiteur ou développeur, bah c'est le Graal, quoi, finalement.
Oui, bien sûr, bah, c'est ça le but au final. C'est bien de avoir moins possible à faire pour rattraper, et ça, j'arrive à le faire un peu parfois. Donc, malgré mes modestes compétences, je sais que c'est un peu ça qui a changé dans le fait d'acquérir de l'expérience. C'est que des fois, je rattrapais des grosses erreurs de mesure, l'exposition. J'étais obligé de jouer avec le curseur. Là, maintenant, un peu moins. Donc, ça compense, mais c'est pas unique.
Bien sûr. Est-ce que tu pourrais... alors, je regarde un petit peu le temps qui passe. Il faut passer à la suite. Mais en même temps, c'est passionnant. Donc, voilà, c'est une thématique qui est vraiment géniale, je trouve, le post-traitement, de plus en plus. En plus, il y a un vrai dynamisme, je trouve, autour du monde du post-traitement, du marché du post-traitement.
Oui.
Pendant très longtemps, c'était, en gros, ou Lightroom, ou des trucs gratuits, genre The Gimp, quelque chose comme ça, tu vois. Et ben maintenant, c'est plus vrai. Et je trouve ça génial. C'est-à-dire que tu as toujours Lightroom, qui est quand même le truc de référence. Et c'est mérité. Mais malgré tout, tu as Luminar, tu as DXO1, il suffit que je le dise pour plus les avoir en tête, mais tu en as d'autres également qui sont quand même très réputés. Il y en a un autre, pourquoi je ne l'ai plus ? Bon, bref, il y en a d'autres. Bref, c'est pas l'offre, et je trouve ça génial. Ça veut dire une chose, c'est que bah, finalement, la photographie est une partie importante, le matériel, tout ça, on le sait très bien, mais que maintenant, bah, et depuis toujours, hein, forcément, mais bah, voilà, le marché, le grand public, mais aussi les éditeurs, ont bien compris que le post-traitement faisait partie de la démarche photographique. Et donc, ouais, c'est tant mieux, je trouve, d'avoir autant de logiciels, hein, disons ça comme ça, qui permet de le faire. Quoi. Tu travailles sur quoi d'ailleurs, toi ?
Et moi, je suis pas un bon exemple, je suis vraiment que sur Lightroom. Vraiment, j'ai.
Bah, très bien, ok.
Moi, sur photo. Mais j'arrive pas à sortir de cette vieille conception où Lightroom, c'est vraiment pour les photographes, on fait des retouches sur la luminosité, les couleurs, la colorimétrie, tout ça. Et Photoshop, pour moi, c'est du trucage, et c'est vrai que j'y suis pas encore. Mais je retire des choses parfois.
Ok, Ken, allons un petit peu, si tu veux bien, sur la partie, on va l'appeler business, on va l'appeler commercialisation, offre, vente, tout ce qui concerne ce monde-là. Donc, c'est pas ton métier, on l'a bien compris, tu es militaire de carrière. Première chose que j'ai envie d'aller un petit peu explorer avec toi, Ken, c'est c'était quoi ta démarche, en fait ? Quel était le déclic ou le moment ? Alors, est-ce que ça a été un déclic de te dire, tiens, et si je vendais mes photographies, ou si je vendais quelque chose autour de ma pratique photo, ou c'était quelque chose de plus lissé, de plus linéaire, de plus long ? Comment c'était quoi la démarche ?
Ça a été plus un déclic, oui, effectivement, parce que j'avais toujours repoussé l'idée, parce que tu sais, nous, on est un peu monomaniaques, les militaires, c'est notre vie, c'est notre carrière. Effectivement, le déclic, c'est passé le jour où j'ai compris que je pouvais quand même faire quelques activités. Alors forcément, moi, il n'est pas question d'ouvrir une galerie, ou alors faut que je quitte mon boulot, ce qui est pas du tout le cas pour le moment, c'est pas du tout envisageable, ni envisagé. Mais c'est quand j'ai compris que je pouvais quand même, notamment, vendre des tirages, des choses comme ça, et que ce soit, que ça pouvait être conciliable avec ma carrière. Ça a été ça vraiment le déclic où je me suis dit, mais en fait, je fais d'infidélité à personne, c'est pas concurrentiel, il y aura pas forcément de nuisance d'un côté comme de l'autre, enfin, surtout pour ma carrière de militaire, parce que c'était essentiel à ce moment-là.
Quelles sont les prestations que tu as? Quel genre de choses tu peux vendre et qui tombent, tu rapportes de l'argent potentiellement?
Alors, faut savoir que c'est très récent, hein. Le site et notamment la proposition de ces offres-là, c'est vraiment très très récent. Donc en fait, là, j'ai pas encore vraiment commencé à mettre en pratique. Mais c'est vrai que j'avais dans l'idée, notamment en plus des tirages, parce que ça c'est transparent pour moi en fait, les tirages sur Internet. Il y a la conception et l'envoi, donc ça c'était pas vraiment un problème. Après, c'est plus dans tout ce qui va être physique, en présentiel en fait. Donc que ce soit des ateliers photo, je me suis aperçu. Alors c'est parti d'un constat tout simple, c'est que j'ai un camarade photographe du 04 hein, en PACA qui a proposé ses services sur Airbnb. Apparemment, moi j'ai quitté Airbnb il y a quelques temps, hein, très mauvaise expérience avec mes biens, donc j'ai arrêté. Il faut faire attention à ceux qui envisagent de mettre leurs biens sur Airbnb d'ailleurs. Et du coup, j'avais quitté Airbnb, ça a beaucoup évolué. Et maintenant, en plus de tes biens, tu peux proposer tes services. Et ça s'appelle Airbnb Experience. Tu es photographe, tu proposes aux gens qui viennent dans ton coin, dans le Massif Central, tu leur proposes une sortie photo animalière. Et voilà, ils vont payer 30, 40, 50 euros. Et tu leur donnes rendez-vous à un endroit et tu fais une petite session avec eux. Et ça, visiblement, il a fait ça un jour. Je me suis dit, mais pourquoi pas? Parce que moi, je le fais déjà tout seul, tous les week-ends, dès que j'ai un repos, ou même en dehors des heures dans la journée. Donc, je me suis dit, pourquoi pas faire ça? Donc, c'est un peu ça que j'ai dans l'idée, c'est de développer ça. Donc, des sorties avec les gens qui voudraient un peu découvrir le coin, parce que c'est vrai qu'on a un peu des atouts, nous, en termes de géographie ici. Donc,
ouais, c'est un peu connu pour ça, mais ouais, d'accord, donc la vente de photographie, c'est ce qui vient évidemment le plus facilement, le plus naturellement, et tous les photographes pensent à ça, et c'est tout à fait logique. Au-delà de ça, tu cherches à développer d'autres choses parce que voilà, tu as d'autres compétences, enfin tu as des compétences liées autour de la photographie, dont celle de pouvoir accompagner, de faire profiter de tes coins photo finalement. Mais j'avais jamais entendu parler de ce Airbnb. Je trouve ça assez intéressant à creuser évidemment, mais effectivement, pourquoi pas. C'est quoi ton but derrière? Alors j'ai bien compris qu'il y avait l'aspect militaire qui te fermait, parce que c'est pour toi ton métier, et j'ai envie de dire, enfin, j'ai l'impression que tu adores ce que tu fais là, mais est-ce que tu prépares un peu ton après militaire, métier de militaire? Est-ce que c'est maintenant pour te payer du matériel, pour quelque part, c'est une question très personnelle, mais en fait et c'est aussi pour aider, pourquoi je te pose la question, c'est pour aider ceux qui sont aussi dans cette démarche là parce que je sais que cette démarche là en tant que photographe amateur n'est pas facile, parce qu'on a l'impression un petit peu de tomber dans les méchantes sirènes du commerce. Oui, mais la photographie c'est de l'art, faut que ça reste pur, et on va pas vendre ce qu'on sait faire parce que sinon on en sera plus des vrais photographes. Bref, je te passe tous les commentaires qu'on peut avoir dans ta gauche, mais donc quelque part je te pose la question, c'est pour aussi aider, nourrir la réflexion de ceux qui sont un peu comme toi maintenant, ou peut-être un peu un peu moins avancés. C'est quoi ton but? Ton but, c'est, en gros, de faire de l'argent pour te payer du matos? C'est pour te préparer un peu, je sais pas, l'après-carrière? C'est quoi quelque part, la motivation première, en fait, avec ces prestations-là?
Ça reste encore à déterminer pour moi, parce qu'effectivement, c'est venu naturellement, parce qu'à force, bon, je pense que c'est un peu pour tout le monde pareil, tu as toujours quelqu'un qui va te dire, ah ben, elle est sympa, cette photo, tu peux pas la vendre. Donc, c'est venu par là, et effectivement, faut savoir, j'en ai jamais vendu une encore. Je veux vraiment, parce que ça a toujours été des amis, et je me sens pas de vendre. Puis, en plus, je me sentais pas assez abouti dans le projet pour dire oui, je te vends ça. Pour des camarades, d'arriver à le faire plus facilement. Moi, je suis pas allé au bout de la démarche, mais effectivement, le premier objectif pour moi, c'était d'alimenter, financer le matériel, parce qu'effectivement, c'est très onéreux. C'est quand tu as une famille, des choses comme ça, c'est quand même des investissements. Donc, c'était plutôt ça le premier objectif. Après, je pense que il est aussi conciliable avec mon travail actuel, puisqu'on a des postes de communication chez nous. On a des photographes, voilà, qui arrivent à percer, arrivent à travailler pour l'institution, pour la gendarmerie, pour l'armée, pour. Donc, il y a vraiment multiples projets qui sont pas forcément encore très définis, mais après, pourquoi pas? On est aussi militaire, donc on a des carrières qui peuvent se terminer plus tôt. En termes de retraite, on peut partir plus tôt. Si on a la chance de faire un outre-mer, ce qui est mon cas, je souhaiterais toujours depuis le début de ma carrière. J'ai pas encore réussi, mais je ne désespère pas non plus. Donc, quand tu as tout ça, effectivement, tu peux partir plus tôt. Et mais qu'est-ce que tu fais quand tu finis ta carrière à 45 ans? Effectivement, la question se pose. Donc, moi, effectivement, j'aimerais beaucoup j'aimerais beaucoup envisager les possibilités que la photo peut offrir. Donc c'est un peu une préparation, tu sais, sur le long terme. Il n'y a rien de défini, il n'y a rien surtout de brutal ni de court terme, mais je pense, ça se dessine tout doucement. Voilà, j'ai un boulot que j'aime qui est stable pour le moment, donc je suis moins dans l'urgence en fait.
Alors tu vois, je pense à Grégory Paul POL, photographe nature, qui était dans la marine, hein, dans l'armée pendant pas mal de temps également, et qui effectivement a pu bénéficier de ce statut-là, de pouvoir partir à la retraite militaire, en tout cas, plutôt que n'importe quelle retraite à 62, 3, 4, 5 ans, et qui maintenant, effectivement, vit de son travail de photographe, alors de ses photographies, de ses galeries, de ses prestations aussi en termes de shooting photo. Donc c'est pour tous les militaires qui nous écoutent, allez checker un petit peu le site de c'est Grégory Paul, hein, mais Paul POL, Greg Paul aussi sur Instagram. Donc, et puis voilà, si vous êtes dans cette démarche-là en tant que militaire, la reconversion militaire vers photographe, c'est quelque chose que lui a vécu, donc vous pouvez aussi aller un petit peu le questionner là-dessus. Et c'est vrai que tu disais tout à l'heure, je n'ai pas vendu une encore, mais ça, j'ai envie de te dire, en fait, quelque part, on s'en fiche, oui, non, mais. Je trouve que ta démarche, elle est top parce que tu avances tranquillement petit à petit. Et ça dépend des caractères, évidemment. Bien sûr qu'il y en a qui vont avoir besoin de se mettre un gros coup de pied aux fesses et qui ont besoin de lâcher tout d'un coup tout ce qu'ils ont pour pouvoir se donner plus le choix que de réussir avec leur autre activité. C'est vraiment, c'est très personnel. Vraiment, ça dépend du caractère. Mais dans la plupart des cas, en tout cas des gens que je peux croiser, toi et plein d'autres, c'est beaucoup plus lissé, justement. Mais tu vois, tous les photographes, et je me mets dedans, on n'est d'abord pas des vendeurs, on est d'abord des photographes et des artistes et des gens qui ont un métier à côté ou qui ont eu un métier à côté. Et en fait, quelque part, si on n'est pas vendeur, si on n'a pas fait un BTS de vente ou un truc ou des études de commerce ou des choses comme ça, BTS, force de vente ou je sais pas, je crois que ça n'existe même plus d'ailleurs, mais bon, peu importe, c'est pour une raison, hein, c'est que finalement on n'était pas destiné à faire ça au départ en tout cas. Donc on se sent pas trop à l'aise avec cette thématique de la vente et du commerce. Et donc dès qu'il s'agit un petit peu d'aller toucher ça à 35, 40, 50 ans, on est un peu moins à l'aise et on sait pas trop comment, sur quel pied danser. Et donc je trouve que la meilleure chose à faire, c'est d'y aller tranquillement, petit à petit, c'est ce que tu fais. Et c'est vraiment... c'est comme ça que moi j'ai expérimenté, c'est comme ça que je pense que tu vas expérimenter, que l'expérimentent beaucoup de personnes que je peux suivre également et par ailleurs et puis accompagner dans leur reconversion. C'est comme ça que ça se passe, c'est que au départ finalement on n'est pas à l'aise, on sent un petit peu bizarre, tu vois, à mettre sur son onglet sur son site prestation ou vente de tirage. On n'ose pas appuyer sur le bouton publier parce qu'on se dit mais comment ça va être perçu, est-ce que je suis légitime, donc on n'ose pas. On le fait, et puis évidemment, un certain temps, on va vendre aucune photo, et puis un jour, on va en vendre une, donc on va se poser la question du est-ce que c'était le bon prix, est-ce que je peux pas un tout petit peu changer, de prestations, tu vois, et quelque part, on avance tranquillement dans cette démarche-là, dans ce chemin de la vente, et puis on se retrouve au bout, ça peut prendre du temps, hein, un an, deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans, peu importe, et puis il n'y a pas d'arrivée en fait, hein, c'est vraiment qu'un chemin, et on se rend compte quand on se retourne en arrière et de se dire ah ouais au départ j'avais peur de vendre des photographies, j'avais peur de vendre mes prestations et maintenant je me rends compte que j'ai plus peur d'annoncer ça, j'ai plus peur d'en parler, c'est déjà une sacrée belle victoire et puis j'ose afficher mes prix, j'ose en parler, j'ose communiquer dessus, tu vois, je suis de plus en plus transparent. Ma page à propos, je la commence plus par je dois passer par là, tu vois, je te titille un peu mais en fait c'est ça finalement qui est le truc, c'est que ça avance petit à petit, tranquillement, presque sans s'en rendre compte. Mais c'est ce qui fait qu'au bout de quelques temps, mois, années, on se surprend à vendre des choses qu'on n'aurait jamais pensé vendre il y a quelques temps avant. Tu vois. Donc, et c'est ça qui est passionnant, c'est dans ce monde de l'entrepreneuriat, c'est que c'est un vrai chemin. Je trouve que ça a même des impacts parfois dans la vie privée également. C'est-à-dire que, toi, en tant que militaire, je vais pas t'apprendre ça. Et je pense que c'est toi, au contraire, qui aurais bien de choses à m'apprendre sur la sortie de zone de confort, hein, évidemment. Mais quand on est entrepreneur, ça fait partie aussi du quotidien. C'est, de se faire un peu violence régulièrement pour se forcer, s'obliger à faire ça, parce qu'on sait que ça va avoir un impact positif sur son business, quoi. On met de côté tout ce qui est contrainte, toi, toutes tes fausses croyances, tes peurs peut-être là-dessus, et vraiment, on met de côté tout ça. Ce serait quoi ta journée de photographe rêvée finalement, tu vois ce serait pourquoi pour toi une journée de photographe réussie en tant que photographe qui peut se faire payer pour ce qu'il fait?
J'ai plusieurs modèles, non, enfin oui, si, modèle, à partir du moment où ce que tu vois peut te correspondre, c'est un peu, tu prends un peu pour modèle, mais je vois pas mal de youtubeurs qui fonctionnent comme ça. Ils sont surtout photographes, mais eux, pour le coup, ils ont moins de complexes et ils communiquent beaucoup sur les coulisses. Et j'aime beaucoup leur journée, je pense que c'est amusant que tu me dises c'est quoi ta journée. T'aurais pu me dire c'est quoi ton. Et les journées, c'est vraiment des gars qui organisent des shootings, mais voilà, là, je pars du principe que je suis plus militaire.
Je comprends, ah oui, complètement. Ouais.
Donc, ce serait vraiment et je l'ai peut-être touché du doigt parce que ça m'est arrivé qu'on me propose de faire des photos, mais jamais de manière professionnelle. Enfin, je veux dire, tant que j'ai pas vraiment franchi ce cap de la reconversion, je tiens vraiment à pas me faire payer, à pas. Donc, je l'ai fait, voilà, le mariage de ma sœur, je considère que je m'entraîne, que je me progresse et que je vois comment ça marche, parce qu'un mariage, c'est pareil, c'est compliqué à. Faut pas arriver avec son appareil, ne pas avoir une idée des shoots que tu dois prendre. Il y a des passages obligés hein, aussi, comme la présentation. Là. Faut pas louper les alliances, pas louper tout ça. Pour moi, ça m'est arrivé qu'on me dise bah tiens, tel jour, j'aimerais même que tu me fasses des photos pour ma salle de sport. Pour moi, et effectivement, il y a quelque chose qui est plaisant, c'est que tu as carte blanche, on te fait confiance. On a vu ce que tu fais, on aime bien ton œil, ton côté un peu dense sur les photos. Et c'est vrai que ce jour-là, quand on m'avait fait cette confiance-là, j'avais bien aimé. Donc moi, je la vois comme ça, une journée de photographe. C'est qu'on vient te chercher parce que c'est toi, pas parce qu'il n'y a plus de photographe dispo pour le mariage. On comprend le premier dans l'annuaire, on vient te chercher toi. Quoi. Donc c'est un peu ça, c'est on vient, on te demande, on te dit bah, « j'aimerais même que tu fasses quelque chose, tu crées du contenu pour moi ou voilà, pour mon chien. » J'ai vu photographe pour chien, ça marche bien.
Ouais.
Tu sais, nous, les militaires, on n'est pas très doués pour avoir un retour... pour avoir vraiment pas des félicitations, mais vraiment, on a besoin à un moment donné pour s'épanouir, de se dire, bah voilà, ce que j'ai fait est bien. Et on va dire que, en tout cas, moi, dans ma carrière, j'ai vraiment, je suis allé à l'encontre de tout ça, on va dire. Pas s'épandre, mais donc, c'est vrai que moi, la photo, c'est un peu ce que j'attends d'elle. Et même que ce soit sous une forme professionnelle ou pas, ou la forme que j'ai actuellement, c'est-à-dire loisir, je sais que c'est d'abord ça que je lui demanderais. C'est qu'on te dise, bah punaise, ce que t'as fait, c'est pas mal, quoi. Et effectivement. Ce serait plus ça qui guiderait mes démarches que la recherche de m'acheter une maison Ibiza, justement.
Merci infiniment, Ken, pour ce temps passé, avec moi, avec nous, répondre à mes questions. Je suis sûr que ça va beaucoup plaire et que ça va aider aussi d'autres photographes, c'est le but. On te retrouve, Ken, sur ton site Instagram, enfin sur ta page Instagram, donc c'est, je vais la dire, ce que j'ai sous les yeux, c'est KenJSKHN, K-E-N, pas Ken, tout attaché, hein, J-I-S-K-H-N, voilà. H-A-N, pardon, Kenji Scan. Et puis, ton site internet, Ken, pardon, je l'ai sous les yeux, c'est www.kenjisale.fr, sale, la vente en anglais, hein, K-E-N-J-I-S-A-L-E.fr. Merci, Ken.
Merci à toi, Régis.
Un grand merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je vous donne rendez-vous pour le prochain rapidement. D'ici là, portez-vous bien. Faites des photos qui vous plaisent et n'oubliez pas, passer à l'action est le meilleur moyen d'avoir des résultats.